Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Je déclare l'audience ouverte.
Bienvenue dans Au cœur du crime, un podcast proposé par l'Obs. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment ils ont été marqués à tout jamais. Aujourd'hui, pour évoquer l'affaire Fourniret, Céline Rastello reçoit Alain Bert.
Alain Bert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat à Nancy depuis plus de 20 ans maintenant. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce qu'en 2001, vous êtes devenu l'avocat de Jean-Pierre et Marie-Jeanne Laville, les parents d'Isabelle Laville. Isabelle Laville, c'est une jeune fille de 17 ans qui a disparu près de chez elle, dans l'Yonne, depuis déjà 14 ans alors, et dont la disparition est toujours inexpliquée. Vous apprendrez 3 ans plus tard qu'elle est la première jeune femme tuée par Michel Fourniret. Décédé en mai, le tueur en série sera plus tard condamné à la perpétuité pour les meurtres de 8 jeunes femmes. Son épouse Monique Olivier, qui a participé au meurtre d'Isabelle Laville, sera elle aussi condamnée à la perpétuité pour complicité, notamment dans plusieurs de ses dossiers. Mais revenons à votre intervention, donc au début des années 2000, dans cette affaire Laville. Comment, Maître Bert, arrivez-vous dans ce dossier ?
J'arrive dans ce dossier par un appel téléphonique de M. Laville, que je ne connaissais pas, qui me sollicite pour un rendez-vous en me disant qu'il voulait me voir parce que sa fille avait disparu. Évidemment, je lui accorde un rendez-vous rapide. Et j'ai toujours présent à l'esprit l'image de cet homme arrivant dans mon cabinet parce que son visage trahissait à la fois la souffrance et la colère par rapport à la situation qu'il vivait.
Et à ce moment-là, sa fille a disparu depuis un certain nombre d'années.
Nous sommes en 2001, en décembre 2001. Sa fille a disparu en décembre 1987. Ça fait 14 ans que sa fille a disparu.
Et pourquoi vient-il vous voir du coup à ce moment-là ?
Eh bien, il vient me voir parce que M. Laville et Mme Laville font partie de ces gens qui font confiance à la justice de leur pays. Je sais que c'est une phrase galvaudée, mais c'était leur état d'esprit. Ils se disaient, si on n'a pas de nouvelles, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. Et ils apprennent, par l'intermédiaire d'un article dans le journal local, que la nouvelle procureure qui a été nommée à Auxerre vient de saisir le garde des Sceaux du traitement d'un certain nombre de dossiers, en particulier des disparus d'Auxerre. Et il apprend à cette occasion que l'affaire de sa fille a été classée sans suite au mois de janvier 1988, soit quelques semaines après sa disparition. Il ne le savait pas, il l'apprend par cet article.
Donc vous nous dites en fait qu'en 2001, cet homme apprend en fait que le dossier de sa fille a été classé sans suite 40 jours après sa disparition et que personne ne l'a jamais averti de ça.
Aussi incroyable que ce soit, c'est exactement ça.
On est dans un contexte où Émile Louis, un autre tueur en série, a été arrêté en 2000. Et c'est notamment à cette occasion, je crois, que des dysfonctionnements sont soulevés au tribunal d'Auxerre.
Alors, les dysfonctionnements qui ont été soulevés au tribunal d'Auxerre résultent d'un rapport d'un nouvel procureur d'Auxerre et également de déclarations d'un ancien substitut du parquet d'Auxerre, qui s'appelle M. Stilinovitch, qui disait tout ça, ça s'explique par la protection des notables, etc. Et il se référait en particulier à une affaire horrible qu'on appelle l'affaire d'Apoigny, dans laquelle des jeunes filles de la DAS avaient été enlevées pour satisfaire les goûts sadiques d'un certain nombre de notabilités du coin. Et donc, tout ça, c'est une ambiance un peu glauque, qui fait que moi, dès que j'ai reçu M. Laville, j'ai écrit au garde des Sceaux, et nous avons ensuite déposé une plainte pour corruption à la suite des déclarations de ce magistrat. Un juge d'instruction a été nommé, une enquête a été mise en place qui n'a pas abouti.
Est-ce qu'on a pensé à un moment que ça puisse être Émile Louis ?
Alors, à l'époque, on ne connaissait pas Fourniret. On a un tueur en série qui habite dans la région, on a une jeune fille dont on est certain qu'elle a disparu, et qu'elle a sans doute, quasiment certain qu'elle a été assassinée. on fait nécessairement le lien.
Mais revenons à la disparition d'Isabelle Laville. Donc, c'est ce vendredi 11 décembre 1987. Dans quelles circonstances cette jeune fille disparaît-elle ?
Alors, les circonstances de sa disparition sont tout à fait horribles. Cette jeune fille, qui est une jeune fille timide, elle a 17 ans, elle rentre de son collège pour rejoindre son domicile qui est à 2 km de distance de son établissement scolaire. On se rend compte qu'elle a disparu très rapidement. Marie-Jeanne, sa maman, sait que si elle sort à 16h30, à 16h45 ou à 17h, elle sera là, elle sera toujours là à la même heure. Donc je dirais que après 5 minutes ou 10 minutes de retard, Marie-Jeanne, sa mère, commence à se poser des questions. Elle appelle son mari et son mari revient de son travail et avertit les gendarmes en faisant part de son inquiétude et en disant de toute façon, Isabelle, ça ne peut pas être une fugue.
Qu'est-ce que vous savez de l'enquête qui est menée à l'époque ?
C'est presque incroyable. C'est presque incroyable. Parce qu'il y a deux aspects du dossier qu'on doit mettre en parallèle. D'une part, l'enquête judiciaire, la pseudo-enquête judiciaire, et d'autre part, l'émotion qui a été créée dans la région par la disparition d'Isabelle. Pour ce qui concerne l'émotion qui légitime, qui a agité la région, il faut savoir que le club de football d'Auxerre, qui à l'époque était un club très, très, très réputé...
La GIA.
Voilà, la GIA, sous la direction de monsieur Giroux, s'était engagé à afficher dans tous les stades de France, dans tous les stades où ils étaient déplacés, la photo et l'avis de recherche d'Isabelle. Le journal local en faisait des pages entières. Toute la population était mobilisée, sachant que malheureusement, plus le temps passait, plus le pronostic devenait sombre. Ça, c'est l'aspect mobilisation. Et parallèlement, quelques jours après sa disparition, le procureur de la République ou un de ses substituts décide, après l'enquête de gendarmerie, de classer l'affaire en l'état. Ce qui est absolument invraisemblable, c'est que le jour du classement de l'affaire, qui est le 21 janvier, eh bien c'est la veille d'un numéro spécial du journal de la région d'Auxerre sur la disparition d'Isabelle. Donc on a 40 000 personnes qui sont mobilisées par la disparition d'Isabelle, et puis de l'autre côté, on a un des substituts du parquet qui classe l'affaire en l'état.
Et comment on l'explique ça ?
J'ai pas d'explication, parce que il faut toujours se garder de juger a posteriori avec les connaissances qu'on a actuellement des faits qui se sont déroulés il y a de nombreuses années. Mais quand même, c'est pas un cambriolage, c'est pas un vol de mobylette. C'est la disparition d'une jeune fille de 17 ans et c'est toute une région qui est mobilisée. Pour moi, c'est incompréhensible.
On peut, je crois, malheureusement parler dans le dossier La Ville d'autres carences ou dysfonctionnements judiciaires. Nous y reviendrons plus tard, mais on peut s'interroger déjà sur la présence de Michel Fourniret dans Lyon à la fin de l'année 1987. On a cet homme qui s'installe à Saint-Cyr-les-Colons, donc à une vingtaine de kilomètres du domicile de La Ville, et qui n'a rien d'un inconnu aux yeux de la justice.
Je pense que c'est à cette époque que les autorités policières avaient le plus de chances d'arrêter Michel Fourniret, parce qu'il y avait des éléments qui permettaient de remonter à lui. Premièrement, nous sommes en présence d'un délinquant sexuel qui vient d'être condamné par la cour d'assises d'Évry à une peine qui n'est pas négligeable de 7 ans de prison, dont 2 ans avec sursis. Il est également sous le régime de la probation pendant une période de 3 ans. Deuxièmement, lorsqu'il sort, je crois que c'est le 22 octobre, lorsqu'il est élargi de Fleury-Mérogis, il va se promener un peu partout en France et il va s'établir à Saint-Cyr-les-Colons, qui est une petite maison qui appartient à sa mère. Troisièmement, il ne va pas se cacher. Il va s'inscrire à l'ANPE, à l'ANPE d'Auxerre, pour toucher des indemnités de réinsertion. C'est-à-dire, à l'ANPE, on sait qu'il y a quelqu'un qui vient de sortir de prison, qui est dans le coin. Quatrièmement, au mois de novembre, un petit mois avant les faits, il est arrêté par les gendarmes dans le cadre d'un contrôle. Donc aujourd'hui, quand on refait l'histoire, alors attention, je suis très prudent, mais bon, on a un délinquant sexuel hyper dangereux, qui a été qualifié comme tel par les psychiatres lors de son précédent procès, qui vient de sortir de prison, qui est localisable, qui est à 20 km du lieu de la disparition d'Isabelle, qui ne se cache pas et qui s'est inscrit à l'ANPE pour toucher des indemnités de réinsertion. Donc c'est là que ça devient incompréhensible.
Mais personne ne fait le lien.
Personne ne fait le lien. Et c'est d'autant plus regrettable qu'il était sous un régime de probation. La cour d'assises avait bien décidé, dans son arrêt, une probation de 3 ans. Seulement cette probation, on n'en a jamais entendu parler. On ne sait pas ce qui a été fait.
Vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment-là, avec un dossier comme ça ?
C'est un sentiment de gâchis, parce que si une enquête sérieuse avait eu lieu, si un juge d'instruction avait été nommé, il y avait, encore une fois, on ne va pas refaire le monde, mais il y avait de fortes chances pour qu'on puisse remonter à Fourniret. Ça veut dire que ça sauvait la vie de toutes celles qui venaient derrière. La carence dans le dossier d'Isabelle, c'est ce qui a entraîné en grande partie également la mort des autres victimes. Et puis, c'est le permis de tuer. On a fait un crime. On sait que de toute façon, qu'on en fasse un, qu'on en fasse deux, qu'on en fasse trois, on risque la même peine, c'est perpétuité. Et puis, on ne s'est pas fait prendre. Alors pourquoi arrêter ?
En 2003, Michel Fourniret va être arrêté, en fait, c'est le 26 juin, à Ciney, près de Namur, en Belgique. Une adolescente de 13 ans est enlevée et agressée sexuellement par un homme qui l'a fait monter de force dans sa fourgonnette blanche. Cette adolescente parvient à défaire ses liens, s'échappe et, avec l'aide d'une automobiliste, permet l'arrestation le jour même de Michel Fourniret à son domicile de Sarcustine, en Belgique. Que sait-on alors de cet homme ?
Au moment de son arrestation, on se demande qui c'est ce type-là, quoi. Je veux dire, qui interpelle une adolescente, qui la fait monter de force dans une camionnette, qui lui caresse les seins, qui lui dit « ben voilà, je vais te violer, et puis je t'attache à l'arrière de ma camionnette, et puis après je te ramènerai chez toi ». Et à un moment donné, cette victime qui va s'en sortir, c'est la seule qui va s'en sortir, lui dit « mais monsieur, est-ce que vous travaillez avec Dutroux ?» Et là, Fourniret lui dit « non, moi c'est pire que Dutroux ».
Qu'est-ce qu'il livre, lui, aux enquêteurs belges ?
Rien, il ne livre pas grand-chose. Il commence par dire, une fois qu'il est interpellé, il ne peut pas nier. Hein. Oui, je l'ai enlevé, oui, j'avais l'intention de la violer et puis de la ramener chez elle. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'instruction, ses déclarations vont se modifier.
La vérité ne va pas venir de lui, hein. Ce sera de Monique Olivier qu'elle va venir en fait, mais il faudra attendre un an que celle qui est encore sa femme à ce moment-là parle. C'est le 29 juin 2004 dans les locaux de la police belge à Dinan. Ce jour-là, qu'est-ce que dit Monique Olivier ?
Vous avez raison d'insister sur quelque chose qui me semble déterminant dans la logique criminelle du couple Fourniret, c'est qu'elle a attendu un an. Pourtant, une fois qu'il avait été arrêté, elle n'avait plus rien à craindre de lui, puisqu'à un moment donné, son système de défense était de dire « mais j'avais peur de lui ». Non, il est arrêté, elle se tait. Et puis, il va y avoir un travail considérable de sape des enquêteurs, notamment et surtout des enquêteurs belges, qui vont s'interroger, qui vont recouper, qui vont aller dans les détails, qui vont tomber sur des lettres qu'ils ont échangées, et qui vont l'interroger quasiment sans discontinuer pendant des heures tous les jours. Puis à un moment, elle va craquer. Elle va craquer, je crois que c'est le 28 juin, elle va livrer 2 crimes. Et le lendemain, elle va en livrer d'autres crimes, dont celui d'Isabelle.
Et vous qui êtes l'avocat de la ville, en fait, comment et quand vous apprenez cela ?
Le 1er juillet, après que les déclarations de Monique Olivier aient été confortées par les aveux de Fourniret. Je l'apprends par la presse. Je suis sur l'autoroute entre Nancy et Metz. Et un journaliste m'appelle et qui me dit « Est-ce que tu sais qu'il y a quelque part un forestier qui a avoué le crime d'Isabelle Laville ?» Je dis « Quoi ? Qu'est-ce que tu me racontes ? C'est une plaisanterie ?» Il me dit « Non. Il a avoué, il s'appelle Michel Fourniret. »
Et de quelle manière, finalement, retrouve-t-on les affaires d'Isabelle ?
Alors, Fourniret avait déclaré qu'il avait jeté le cadavre dans un puits. Mais ce n'était pas un puits dans lequel il y avait de l'eau, c'était un puits de décompensation à côté d'une centrale électrique, c'est pour que la foudre soit attirée par le puits, qui avait des dizaines de mètres de profondeur. Et on avait parcouru avec Fourniret toutes les routes de la région, parce qu'il prétendait qu'il se souvenait, mais il ne se souvenait pas. Il aime bien jouer aussi avec les uns et avec les autres. Et puis, c'est un ancien électricien à la retraite qui se souvenait de la présence de ce puits de dérivation. Ça collait à peu près au dessin qu'avait fait Fourniret. Et les gendarmes se sont mobilisés. Ils ont mobilisé des gendarmes spécialistes de spéléologie pour rentrer dans le puits. Et au fond du puits, il y avait le corps d'Isabelle. Alors je voudrais ajouter que moi j'étais avec Jean-Pierre Lavigne quand on a découvert le corps et que c'est un moment très dramatique de ma vie d'avocat. Parce que quelquefois quand on découvre le corps, on a des surprises. Et par exemple, lorsqu'on a découvert le corps d'Isabelle Lavigne, elle avait toujours ses petites bottines blanches que sa maman lui avait offertes pour son anniversaire avant son enlèvement. Mais surtout, elle avait le visage bâillonné du menton jusqu'au nez, recouvert par un textile, tout ça recouvert par un sac plastique. Alors, on n'en a pas parlé avec Jean-Pierre Lavigne, parce qu'il y a des situations dans lesquelles il n'y a pas de mots pour expliquer. Mais chacun a pensé assez fort pour que on se comprenne. Je veux dire, elle est morte dans des conditions absolument horribles. Hein, bâillonnée, avec un linge sur le visage. Et ça, Fournier ne l'avait jamais dit.
Il va vous falloir bientôt préparer l'audience de 2008, car Michel Fourniret va être jugé avec Monique Olivier aux Assises des Ardennes. Quel est alors votre état d'esprit à la préparation de cette audience qu'on abordera plus précisément dans un second épisode?
Vous savez, ça, la préparation de cette audience a demandé un travail phénoménal, en particulier à un procureur qui s'est engagé dans cette affaire auquel il faut rendre hommage. C'est le procureur Nashbar qui a tout organisé. Pour vous donner un exemple, chaque partie civile a droit à une copie du dossier. On devait être, compte tenu du nombre de victimes, chaque parent a le droit de se constituer partie civile. Il y avait des associations, je crois qu'il y avait 20 ou un peu plus de 20 parties civiles. Chaque partie civile a droit à une copie du dossier. Le dossier, il est un volume incroyable. Moi, quand je suis allé chercher ce dossier à Reims, on m'a dit quel type de voiture vous avez. Ben, à l'époque, j'avais une voiture coupée, je ne vous donnerai pas la marque. Et j'ai dû rabattre les sièges pour pouvoir faire rentrer tous les volumes du dossier. Donc, c'est quelque chose de gigantesque. C'est un procès hors norme qui va durer 2 mois et demi et dont l'organisation, encore une fois, a été considérable. Mon état d'esprit, vous savez, j'avais déjà vécu de ce type de procès dans un autre domaine. J'étais pour des victimes de l'accident du Mont-Saint-Odile, donc c'était aussi un procès gigantesque. Mon impression, c'était qu'on ne tire pas grand-chose de ce type de procès.
On y reviendra dans ce second épisode d'Au cœur du crime. Merci Alain Bert de nous avoir retracé jusque-là cette affaire Isabelle Lavigne. Mais vous ne nous quittez pas tout à fait, car on vous retrouve bientôt dans un second épisode du podcast pour évoquer avec vous donc la suite du dossier, notamment ce procès de Michel Fourniret et Monique Olivier aux Assises des Ardennes en 2008, qui commence fin mars, et c'est un procès, vous l'avez dit, hors norme.
Vous écoutez Au cœur du crime, un podcast de L'Obs. Une musique de Michaël Gauthier, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron. On espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du crime.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.